Quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps ?
L'orthodoxie russe en France.
À quelques encablures de la tour Eiffel, l'église orthodoxe désormais ornée d'une coupole dorée ne passe pas inaperçue. À 37 mètres du sol, elle sera bientôt entourée de quatre petites coupoles renforçant l'identité architecturale de ce lieu spirituel et culturel russe. Si elle s'inscrit en parfaite harmonie dans le paysage parisien, elle y apporte une touche architecturale authentique, rappelant le riche patrimoine culturel russe.
Le premier lieu de culte orthodoxe en France date de 1816. C'était une simple chapelle dans l'ambassade du tsar. Poutine insiste d'ailleurs afin d'obtenir la même extraterritorialité pour l'immense édifice dont il achève actuellement la construction à Paris. Il agit par le truchement du patriarche de l'église orthodoxe de Russie, laquelle n'a jamais pu se détacher de la tutelle du pouvoir politique. Persécutée, elle déclarait que les succès du régime soviétique étaient les siens. Remise en selle aujourd'hui et confortablement assise, elle tient encore le même discours. Cette installation d'une fan zone de Poutine à deux pas du Champ de Mars risque, entre autres inconvénients, d'écraser l'orthodoxie française, qui n'a que son cœur pour prier et son cerveau pour réfléchir. Elle a développé une expérience étonnante au centre de laquelle la liberté a une valeur primordiale. L'un des soucis de cette diaspora est le partage avec les autres chrétiens. Diaspora, rapprochement des chrétiens, ce sont deux des questions que doit traiter le Saint et Grand Concile panorthodoxe. C'est le premier depuis plus de 1000 ans. Il a été convoqué en Crète par le patriarche de Constantinople, primus inter pares chez les orthodoxes. Or, le Saint Synode, l'Assemblée des évêques de l'Église orthodoxe de Russie, qui représente la moitié des fidèles, vient d'annoncer abruptement que la Russie ne s'y rendrait pas. Plutôt qu'un signal d'unité au monde, elle préfère la Russie offrir un coup de théâtre. C'est une de ses spécialités.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Olga Loski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière, 4 romans, mère de famille, 3 enfants. C'est la 5e génération de Loski, je parle de vos 3 enfants, qui est établie en France.
Oui, en effet, mes arrière-grands-parents ont quitté la Russie juste après la Révolution de 1917 et sont arrivés en France dans les années 20, en 1924.
Via un court séjour à Prague où se sont retrouvés un moment pas mal des représentants intellectuels de l'émigration orthodoxe russe en France. Alors, orthodoxie, après le schisme de 1054 et puis avec les croisades, qui ont été un choc pour les chrétiens d'Orient, qui se sont vus écrasés. Les chrétiens d'Orient, orthodoxes, ont été un peu confinés dans un espace géographique qui leur était attribué, d'où ils ne sortaient guère. La révolution russe, avec l'exil qu'elle provoque, surtout après le coup de force bolchevique d'octobre 17, donne à ces orthodoxes de Russie, même si c'est dans la misère, une nouvelle chance d'universalité, j'allais dire de catholicité, parce que catholicité, ça veut dire universalité.
Oui, alors catholicité veut aussi dire, et ça dans la pensée orthodoxe, c'est important, selon le tout, c'est-à-dire l'Église dans sa plénitude présente dans une Église locale. Et quand les Russes, les immigrés russes arrivent en France, ils sont tout autant l'Église que s'ils étaient restés en Russie, puisque l'Église, elle est appelée à s'incarner en tout lieu. Sauf qu'en France, il y a déjà les chrétiens d'Occident. Donc cette émigration va être le point de rencontre entre deux chrétientés qui s'étaient jusque-là ignorées.
Alors votre arrière-grand-père, Vladimir, passé donc par Prague, arrivé au début des années 20, s'exprime assez souvent en français, assez vite en français dans ses livres, dans son enseignement.
Vladimir Loski avait dès ses années russes, dès son adolescence en Russie, un très grand amour pour la France et pour la langue française. Et lui vit l'émigration comme une chance. À la différence peut-être de la génération précédente qui vit ça vraiment douloureusement, de tous les penseurs hérités de l'âge d'argent, lui va très vite complètement s'intégrer dans son pays d'origine, demander la nationalité française. Il vit pas du tout sur ses valises comme beaucoup d'émigrés russes qui disent c'est bon, demain la révolution est finie. Non, il va étudier à la Sorbonne et il va écrire tous ses livres en français.
Son portrait par Olivier Clément, qui
est un converti à l'orthodoxie, deux générations plus tard, une grande figure, lui aussi, des intellectuels orthodoxes en France.
Lossky était un homme relativement petit, trapu, avec les cheveux très noirs, quelque chose de solide, de carré, enfin, de solidement maçonné, et avec une pensée extraordinairement claire, bien charpentée. Lossky était vraiment un docteur, n'est-ce pas ? Un docteur, un homme qui maîtrise une pensée théologique, une pensée forte, mais une pensée sans prétention. Il ne prétendait pas du tout enfermer Dieu dans ses catégories. Il disait « toute vraie théologie échoue ». Son destin normal, c'est d'échouer. Et il insistait beaucoup sur la théologie négative. Il avait commencé aussi par écrire sur Denis l'Areopagite, qui est le grand docteur de la théologie négative.
Théologie négative, c'est-à-dire essayer de...
On ne peut approcher du mystère de Dieu que par des négations. On ne peut
pas
dire
n'est pas.
On peut dire qu'il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Et c'est comme ça que l'âme s'ouvre finalement à la rencontre personnelle, où on est envahi alors par une présence.
Mais alors je reprends les questions de Jean-Maurice de Mormy, c'était une interview d'Olivier Clément sur France Culture. Il n'est pas, bah d'habitude on entend dire il est Dieu.
Oui, alors il y a la théologie négative qui est au centre de la pensée de Vladimir Lossky, et il affirme aussi que toute théologie est mystique, en ce sens qu'on ne peut faire de la théologie à partir de concepts, on en fait à partir de l'expérience que l'on a de Dieu et de l'union à Dieu. Donc on est au-delà de la construction de pensée, et finalement cette rencontre, elle se fait dans le moment où on est au-delà de la pensée. C'est ça un peu la théologie négative.
Alors il y a beaucoup de moments où ils sont au-delà de la pensée, ces intellectuels orthodoxes qui se retrouvent dans des salons, j'allais dire des foyers. Il y a la maison de Clamart de Serge Berdiaeff, dont on disait qu'il recevait à table, autour d'une table ronde, et les Russes ne quittent jamais la table. Et il y avait aussi un oratoire, et puis la femme de Berdiaeff. C'était un foyer parmi d'autres, mais très vibrant.
Oui, il y avait ce qu'on appelait les dimanches de Clamart, où les Berdiaeff ouvraient leur maison avec ce côté très russe, à la fois informel, où on tient salon, on boit du thé interminablement, tout en discutant les grandes questions existentielles. Ça, c'était quelque chose qu'ils avaient complètement importé de Russie. Mais là, la nouveauté, c'est que ça va aussi s'ouvrir aux intellectuels d'Occident. Il y a les dimanches de Clamart, il y a le studio franco-russe, il va y avoir toute une rencontre très intense avec notamment les intellectuels issus du mouvement personnaliste en France. Donc comme ça un premier point de rencontre entre Orient et Occident.
Moi j'appelle ça le salon des refusés, enfin je veux dire le salon des minoritaires, parce que il y a dans le catholicisme que ceux qui s'intéressent à la rencontre avec le monde moderne, ils sont assez minoritaires, il y a les protestants qui sont par définition minoritaires, et puis il y a les orthodoxes.
Alors peut-être que cette dimension minoritaire, elle a créé un lien entre ces personnes, en effet. Mais certes, c'est minoritaire et marginal, mais quand même avec des questions qui sont au cœur de la modernité, à savoir voilà, comment témoigner aujourd'hui ensemble du christianisme, et que faire de cette désunion des églises dont ils se rendent bien compte en se rencontrant.
On a dit qu'on pouvait utiliser un gros mot de temps en temps. Comment faire ensemble, ça s'appelle ?
C'est
l'écuménisme.
C'est l'écuménisme,
mais
voilà.
Osez-le.
Oui, c'est le dialogue œcuménique, on va dire.
Il y a aussi un autre grand lieu, c'est la colline sacrée. La colline sacrée, c'est le mont Athos, mais c'est aussi les buts de Chaumont.
Oui.
Alors là, les Lossky ont eu des activités lucratives dès le début des années 20 et pendant des générations et des générations à Saint-Serge.
Oui, alors Vladimir Lossky n'a pas directement enseigné à Saint-Serge pour des questions de querelles entre les différentes juridictions. Mais effectivement, sur la colline Saint-Serge a été fondée en 1925 l'Institut de théologie orthodoxe, qui va avoir un rayonnement très grand dans l'émigration russe et bien au-delà, puisque tous les grands penseurs de cette époque vont passer par Saint-Serge, et ça va devenir ce qu'on a appelé ensuite l'école de Paris, l'école des penseurs de Paris.
Et vous avez beaucoup lu sous les grands marronniers de Saint-Serge, Olga Lossky ?
Oui, ça m'est arrivé, j'ai beaucoup joué aussi, parce que c'était ma paroisse quand j'étais petite.
Et c'était un lieu qui avait été créé par des luthériens allemands. La chapelle en bois qui
oui,
survit.
Et qui a été ensuite achetée par les orthodoxes pour faire cet institut de théologie, acheté par Monseigneur Hologe à l'époque, qui était l'évêque en charge des émigrés russes.
Alors on a retenu le mot juridiction, elles sont différentes, et on a maintenant le nom de Monseigneur Hologe. L'orthodoxie française peut aussi avoir ses saints. Mère Marie a été canonisée en 2004. La mairie de Paris lui a donné le nom d'une rue dans son cher 15e arrondissement du côté de Lourmel ces dernières années. Mariée deux fois, trois fois mère, elle décide de prendre l'habit monastique, de se jeter dans le désert humain de Paris, d'organiser rue de Lourmel, pas seulement des conférences d'intellectuels et des ateliers d'art et de broderie, mais une soupe populaire pour laquelle elle va aux Halles régulièrement au petit matin. C'est ici, commenté par Alexis Ipatostov sur France Culture, un film consacré à Mère Marie dont on entend l'écho.
Attention, venez, ma bonne sœur.
Посмотрите, мать Мария. Эти обрезки не так уж плохи.
On voit Mère Marie au hall, à la fin du marché, en train de choisir les meilleurs morceaux de ce qui restait.
Merci, monsieur.
Regardez, ça c'est Mère Marie. Elle était tellement charmante. Et beaucoup d'admirateurs. Hein. Et tout ça pour se cacher finalement derrière les murs d'un monastère. Oh, ce n'est pas une nonne banale, elle est devenue nonne ici, à Paris. Mais le jour suivant, elle est partie pour être nonne dans le monde. Métropolitologue a dit une fois, la vie monastique, dans le sens strict, elle ne le comprenait jamais vraiment. Et vous savez, ce n'est pas la peine de demander. Pourquoi elle est devenue moine? Regardez, elle est habillée en noir. C'est le symbole de nostalgie pour la patrie perdue. Essayez de la comprendre.
Je ne suis pas un moine.
Et Boris Hulder répond, mais moi je ne suis pas un moine.
Dites-moi, c'était un vrai caravansérail, la rue de Lourmel. Hein. Les autorités orthodoxes, très orthodoxes, trouvaient que... Il y avait des filles de mauvaise vie là-bas.
Enfin... Ah oui, il y avait tout. Il y avait des prostituées, il y avait des ivrognes, il y avait des personnes que Mère Marie était allée chercher en hôpital psychiatrique. Mère Marie, c'est une figure complètement incroyable, complètement atypique du paysage orthodoxe. Effectivement, mariée deux fois, trois fois mère. Elle a été mère de son village en Crimée, à Anapa. Elle a une destinée comme ça extraordinaire, extrêmement artiste. Elle brode, elle écrit des pièces de théâtre, elle tient des cercles de pensée à Lourmel. Et puis, au moment de la mort de sa petite fille à l'âge de 5 ans, Mère Marie fait une espèce de pari fou, c'est-à-dire d'incarner au pied de la lettre la formule « Aimez-vous les uns les autres » de l'Évangile. Et là, elle va fonder ce centre de Lourmel où elle va accueillir le tout venant. Et elle ne va pas s'arrêter là, puisque pendant la guerre, elle va cacher des Juifs. Et elle va être déportée à Ravensbrück où elle mourra gazée. Donc c'est une destinée absolument fulgurante.
Moi j'aime bien la formule de Mère Marie, il n'y a pas de problème juif, il y a juste un problème chrétien. On se demande pourquoi tous les chrétiens ne mettent pas l'étoile jaune. Elle disait ça en 1942. On est peut-être un peu dans l'imagerie d'Épinal, Olga Loski. Vous avez quand même prononcé le mot « conflit de juridiction ». Alors on ne va pas entrer dans le détail parce que c'est d'une complexité infinie. On a entendu aussi le nom du métropolitologue. Il était l'administrateur des nouvelles paroisses de l'émigration et de la diaspora en 1931. Les autorités religieuses officielles de Moscou, qui sont soumises au pouvoir communiste par la force des choses et de la persécution, lui demandent une expression écrite de loyalisme envers l'URSS, ce qu'il refuse. Il ne va pas non plus accepter de dire que ceux qui sont persécutés ne le sont pas.
En effet, Monseigneur Loge prend clairement parti, dit on, le patriarcat russe est visiblement sous la coupe des communistes, donc on ne peut pas rester avec eux, on ne peut pas recevoir d'ordre d'un patriarcat qui est ainsi noyauté par les communistes. Donc il décide de quitter le patriarcat de Moscou et il se tourne vers le patriarcat dit œcuménique, c'est-à-dire le patriarcat de Constantinople.
Primus inter pares,
alors pour le premier parmi les égaux. Pourquoi on dit que ce patriarcat est œcuménique? Parce que c'est celui qui tente de faire régner l'unité, la concorde entre les différents patriarcats et les différentes juridictions de l'Église orthodoxe, en assurant cette primauté qui est non pas un pouvoir, mais qui est une primauté d'amour et de service dans l'idéal.
Et c'est comme ça que va se constituer ce qu'on appelle couramment, autour de Saint-Alexandre Nevski, la cathédrale de la rue d'Aru, l'archevêché de la rue d'Aru. Quand même, précisons les choses, les Loski choisissent de rester au pied de la croix, parce qu'on ne quitte pas une église qui souffre, ils restent dans la juridiction russe.
Alors oui, Vladimir Lossky et les gens qui sont autour de lui décident de rester fidèles au patriarcat de Moscou, tout en étant totalement insérés dans la vie de l'émigration russe et dans la nécessité de construire une église orthodoxe d'expression locale. Mais il décide de garder ce lien de fidélité avec le patriarcat de Moscou.
Enfin, quand Radio France négocie avec les orthodoxes de France, on verra ce qui se passe avec l'arrivée de l'église de Poutine à Paris, c'est avec Saint Alexandre Nevski, l'archevêché de la rue d'Aru, qu'elle le fait. C'est comme ça que sont diffusés chaque année, la nuit de Pâques, un extraordinaire office qui doit paraître étrange à certains auditeurs.
Bonsoir, c'est maintenant la nuit de Pâques, la nuit de la résurrection du Christ. L'office de la résurrection à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski est célébré par son éminence Monseigneur Job de Telmessos, archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale et exarque de sa sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée. Monsieur l'archevêque, Monseigneur l'archevêque est entouré par les prêtres, l'archidiacre et les diacres de la cathédrale. Les chants sont exécutés en slavon par la chorale de la cathédrale sous la direction du protodiacre Alexandre Kedrov, maître de chapelle. Les textes de ces chants ont été composés par d'anciens hymnographes et notamment par le grand théologien et père de l'Église, Saint Jean Damascène. L'archidiacre a entonné la litanie d'intercession pour l'Église et le monde entier. À chaque demande, le chœur a répondu au nom de tous.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'orthodoxie russe en France à la veille d'un concile panorthodoxe qui se tient en Crète la semaine prochaine avec Olga Lossky, romancière. Dernier livre chez De Noël, d'autres livres aussi, chez Gallimard et une grande, témoin d'une grande lignée des orthodoxes en France. Vos enfants en sont à la cinquième génération, Olga Lossky. Jacques Sigal me dit la prise de son rue d'Aru, c'est admirable. Alors j'ai demandé aux techniciens qui m'ont dit c'est simple, ce sont les membres du clergé de la rue d'Aru qui sont abrités derrière le mur des icônes, l'iconostase, qui posent eux-mêmes les micros. Et nous, on ne sait pas comment ça se passe. C'est en slavon. Et vous, Olga Lossky, vous allez en dessous.
Oui, dans la crypte de la cathédrale rue d'Aru, il y a une communauté qui célèbre en français. Donc comme ça, j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que ceux qui ont les nouveaux arrivants qui comprennent le russe vont plutôt à l'église en slavon. Ceux qui sont là depuis plus longtemps ou les Français vont à l'église en français.
Une grande paroissienne qui a longtemps été la doyenne de l'orthodoxie a attiré votre attention dans cette crypte. C'est Elisabeth Bersigel. Alors pour vous, c'est une très très grande figure. Petite femme, menue, beaucoup de difficultés financières, pas de statut social très assuré, beaucoup d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants.
Alors Elisabeth Bersigel, c'est une des grandes dames de l'orthodoxie en France. À l'origine, elle est protestante. Elle va découvrir l'orthodoxie grâce aux immigrés russes. Et là, ça va être une sorte de coup de foudre. Elle va vraiment intégrer en profondeur la tradition de l'Église d'Orient, avec pour idée, non pas simplement d'être focalisée sur les orthodoxes, mais de s'ouvrir au dialogue œcuménique, au dialogue avec les chrétiens d'Occident. Donc c'est vraiment une charnière, un pont entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, Elisabeth Bersigel.
Ce que vous nous racontez, c'est l'établissement d'une orthodoxie de France dont les membres, Olivier Clément le premier, disent « Je ne suis d'aucun peuple où tous les peuples doivent trouver place dans l'unité des hommes ».
Oui, parce que c'est l'essence même du christianisme, du message évangélique, à savoir que l'évangile, il est appelé à s'incarner dans n'importe quelle culture et à n'importe quel endroit du monde. Et c'est pas selon des critères ethniques, mais c'est vraiment selon des critères territoriaux que chaque église devrait s'organiser, en tout cas dans la perspective orthodoxe.
Bon, enfin, la perspective orthodoxe telle que vous, orthodoxe de France, la définissez. Parce que voici que s'ouvre maintenant un nouveau moment qui va mettre en difficulté les hypothèses que vous défendez. Chute du système soviétique, arrivée d'ailleurs de beaucoup de Russes.
De nouveaux émigrés, oui.
Et vous êtes très content. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va être le pouvoir du camarade Poutine au Kremlin. Et ça va se faire sentir sur différents lieux de l'orthodoxie. En France. Nous sommes ici à la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, très vaste bâtiment qui a été construit en 1912 sur un terrain d'ailleurs appartenant à la famille impériale de l'époque, mais comme les autres endroits dont nous parlions tout à l'heure, jusqu'en 2011, c'était le patriarche œcuménique de Constantinople, et non pas celui de Moscou, qui avait la juridiction de Saint-Nicolas, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, qui visite d'ailleurs l'endroit en 1995.
Aux coupoles majestueuses, aux chants sacrés millénaires, en grec et en slave ancien, aux riches icônes dorées, on pourrait se croire à Saint-Pétersbourg. Mais la cathédrale Saint-Nicolas est à Nice. Elle accueille tous les dimanches les orthodoxes dispersés en Europe occidentale. Pour sa première visite en France, le plus haut dignitaire de l'Église orthodoxe, le patriarche Bartholomée Ier, a encouragé les pratiquants à préserver les racines, tout en priant pour la France, terre d'hospitalité. Le patriarche a notamment condamné le nationalisme qui défigure l'orthodoxie, allusion à peine voilée à la Serbie. Bartholomée Ier participera aujourd'hui à Monaco à une célébration pour la paix, avec le clergé catholique et protestant.
Le patriarche œcuménique de Constantinople, nous sommes en pleine guerre des Balkans, dénonce les positions de son homologue de Serbie, qui défendait Milosevic, malgré ses grandes qualités spirituelles. Le patriarche Paul de Serbie était très nationaliste. Le nationalisme, selon vous, c'est une hérésie?
Alors oui, c'est pas selon moi, c'est selon l'Église orthodoxe, à tel point que c'est une hérésie qui a été dénoncée comme telle par un concile en 1872. Le concile dénonce le philétisme, c'est-à-dire littéralement le tribalisme, le fait d'organiser l'Église selon un principe ethnique et non pas selon le lieu. Et c'est ce que dénonce également le patriarche Bartholomée lors de sa visite en France, avec ce grand problème de la présence orthodoxe en France, de savoir comment cette présence elle va pouvoir s'organiser de façon locale, et non pas chacun étant relié à une église mère qui va manœuvrer pour avoir une certaine visibilité à travers cette diaspora.
Mais depuis que Poutine a décidé que le clergé était une armée spirituelle qui allait défendre les lignes morales de la grande et sainte Russie face à l'Occident décadent, vous pensez bien que son bras clérical, l'Église de Moscou, veut reprendre des positions dans l'orthodoxie française. Et elle a gagné d'ailleurs dans le cas de Nice, puisque le patriarche de Constantinople a perdu la juridiction de Nice qui est passée, après décision de la justice française, à Moscou.
Oui, c'est assez regrettable, parce qu'on a le sentiment qu'en fait toute cette vie de l'émigration pendant 80 ans, avec tous ces apports, que ce soit en théologie, dans le renouveau liturgique, tout ça est un petit peu nié. Alors qu'on avait de grands espoirs dans l'ouverture de la Russie et le moment où la Russie a pu à nouveau pratiquer son orthodoxie, on a l'impression que voilà d'une espèce de rouleau compresseur qui vient nier toute la spécificité de la présence orthodoxe en France.
Et ça va être la même chose à Paris, non pas que Alexandre Nevski puisse être confisqué, la rue Daru, mais voilà que s'établit cet immense bâtiment sur les bords de la Seine. Que ne dirait-on pas si une pétromonarchie installait une mosquée avec de l'argent qui ne vient que de son pays sur les bords de la Seine? Enfin, je ne vous fais pas faire de commentaires, vous n'avez peut-être pas envie.
Non, mais c'est vrai que cette visibilité-là pose question, en tout cas cette recherche d'une visibilité qui semble avant tout politique. Après, il y a quand même une nécessité pastorale, à savoir que la cathédrale actuelle du patriarcat de Moscou à Paris est toute petite, et on comprend que pour le besoin des fidèles, il y a besoin d'une plus grande église.
Est-ce que vous comprenez, en revanche, la position de l'Église de Russie dans le cadre de la préparation du concile qui doit être ouvert en Crète la semaine prochaine par le patriarche de Constantinople qui, primus inter pares, avait le pouvoir de le convoquer? L'Église de Russie avait accepté de participer aux travaux.
Ah oui,
ça fait
alors,
plus de 50 ans que ce concile est en préparation.
En effet, ça fait un siècle qu'on commence à parler du concile parce qu'il y a des questions qui sont à résoudre au sein de l'Église orthodoxe, notamment cette question des fidèles orthodoxes dispersés hors des pays de tradition orthodoxe. Mais l'Église de Russie vient d'annoncer que finalement elle ne participerait pas au concile à la suite d'autres églises, notamment l'Église bulgare, l'Église géorgienne qui remettent en question certains documents qui vont
Parce
être discutés au concile.
En principe, c'est la position de Moscou et puis la position des autres églises. Il doit y avoir consensus. On ne prend que quelques questions parce qu'elles peuvent provoquer l'unanimité. Et alors, s'il y a une église sur les 14 qui manque, c'est pas possible. On peut penser quand même que la Russie a envoyé en poisson torpille la Bulgarie, puis maintenant dit, regardez, nos amis bulgares ne sont pas là, nos frères bulgares ne sont pas là, on ne peut pas venir.
Alors bien sûr, on peut interpréter de façon un petit peu méchante, je dirais, la position de la Russie. Et la situation s'y prête, à savoir que, quelque part, les Russes se cachent un petit peu derrière les Bulgares et les Géorgiens pour dire, si toutes les églises ne sont pas là, c'est pas la peine de faire le concile, parce que le concile, c'est une fête de l'unité. On fait église quand on est tous ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine ambiguïté dans cette prise de décision. Après, le patriarcat œcuménique a décidé de maintenir coûte que coûte le concile. Est-ce que ce sera vraiment un concile panorthodoxe dans la mesure où tout le monde ne sera pas présent? C'est pas évident. Après, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, c'est à vue humaine. À vue humaine, il y a énormément de dissensions, mais ça, dans l'histoire de l'Église, ça a été très souvent le cas.
Oui, mais enfin, c'est une vue humaine de longue durée, parce qu'il n'y avait pas eu de concile depuis plus de 1000 ans. Puis alors, c'est le pape qui est bien embarrassé, parce que le patriarche de Moscou a accepté de voir le pape sur l'aéroport de La Havane. Le pape, il voulait le concile orthodoxe sur le modèle du concile Vatican II. Le patriarche de Russie a obtenu pas mal de concessions de la part du pape, qui est grosjean comme devant.
Oui, je crois que les attentes
si
sont
je peux
très...
Me permettre pour le pape François.
Les attentes sont très divergentes. Les uns attendent que le concile soit une manifestation de l'unité, les autres essayent d'avoir une hégémonie et de faire une pression un peu politique. Mais je crois que ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que pour un croyant, le véritable acteur du concile, c'est le Saint-Esprit. Donc toutes ces dissensions, elles seront peut-être transcendées. Et, on trouvera peut-être une voie de conciliation qui sera inattendue.
C'est en tout cas ce que j'espère. À la 7e, 8e, 9e génération des Loski, c'est quand même une grande déception pour vous.
On attend de voir ce que ça va être. C'est vrai qu'on est, on est déçus de toutes ces dissensions. C'est très mesquin, surtout quand il y a des enjeux mondiaux qui sont bien autres que simplement savoir qui est le premier dans les patriarcats. On attendrait autre chose de nos patriarches, ça c'est sûr.
Il se peut, et il est même certain, qu'à la fin des temps, toutes les églises se réuniront et formeront l'église que mentionne le credo. Mais ce n'est pas pour demain.
Voilà, c'est Nikita Kriochein, un vieux de la vieille qui aura eu le dernier mot. Merci à vous, Olga Loski. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et d'abord Ilinka Negulesco. À la technique, Jean-Noël Vélin. À la réalisation, Jacques Sigal.